Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Magazine spécial sur les élections européennes 2014. Dans un premier temps, nous avons rencontré Paul Bacot, professeur à Sciences Po Lyon.
Univox.
Qu'est-ce que c'est que les élections européennes ?
Les élections européennes, c'est les élections des membres du Parlement européen, des députés européens, comme on dit, qui, Parlement européen qui siège pour l'essentiel à Strasbourg et puis un petit peu aussi à Bruxelles. Enfin, l'essentiel est à Strasbourg depuis l'origine. Donc ce Parlement européen a toujours existé depuis qu'il y a des communautés européennes, hein, depuis le traité de Rome en 1957. Mais c'est seulement depuis 1979 qu'il est élu au suffrage universel direct, directement par les citoyens des États membres. Avant 1979, les députés européens étaient désignés par les députés nationaux, par les parlements nationaux, qui envoyaient des délégations, en quelque sorte. Depuis 1979, tous les 5 ans, il y a une élection au suffrage direct, et donc c'est la 8e fois que ça va se produire.
Et alors, comment ça se passe? On vote, notamment en France, c'est divisé en plusieurs zones.
Voilà, les États membres ont la liberté de s'organiser en la matière. Dans beaucoup de pays, c'est une seule circonscription. En France, il y a eu 8 circonscriptions, qui sont des circonscriptions interrégionales, qui regroupent en principe plusieurs régions, plus une circonscription outre-mer. Voilà. Et donc, pour ce qui nous concerne ici, on est dans une grande circonscription sud-est, qui va du nord du Beaujolais jusqu'au sud de la Corse.
Et alors, comment vous voyez un petit peu l'évolution historique depuis 1979 de ces élections? Quelles grandes remarques on peut faire un petit peu?
Bah, vous savez, c'est un scrutin qui, souvent, est plus national qu'européen, malgré l'enjeu officiel du scrutin. Jusqu'ici, on se préoccupait finalement souvent pas beaucoup de ce qu'allait donner le Parlement européen. Ce qui était le plus souvent pris en considération par beaucoup d'électeurs, c'était des considérations nationales. Donc on voulait marquer l'existence d'une sensibilité partisane, pas forcément très importante, manifester un vote sanction contre la majorité en place, ou des choses comme ça qui n'avaient finalement pas forcément un grand rapport avec l'Europe.
Et alors, est-ce qu'il y a des partis quand même qui tirent leur épingle du jeu un petit peu de cette élection en particulier? Est-ce que ça réussit plutôt à certains partis qu'à d'autres, notamment en France?
C'est-à-dire qu'il y a une règle. Il y a une règle qui vaut au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, c'est que le scrutin doit être organisé selon un mode de type proportionnel. Alors après, il y a des nuances d'un pays à l'autre. Mais le principe, c'est quand même la logique proportionnelle. Ce qui, comme toujours, conduit à accroître les chances des petits partis. Chacun peut faire sa petite liste en espérant se ramasser quelques points de pourcentage. Et au moins dans certains cas, dans certains pays ou dans certaines circonscriptions, à partir de quelques points de pourcentage, on peut espérer avoir un élu. Donc, et puis même si on n'a pas d'élu, ça permet de faire campagne, de se faire connaître. Et c'est ce qui fait que dans la grande circonscription du Sud-Est, on a plus de 20 listes qui sont en compétition.
Et alors, est-ce que c'est vraiment une élection qui peut changer le sort de l'Europe? Alors, je parle d'une manière générale, hein, pas celle-là en particulier dans un premier temps. Est-ce que c'est une élection qui a vraiment une incidence sur les grandes directions que l'Europe va prendre les 5 années qui suivent ces élections?
On reste, je crois, souvent sur une image ancienne qui était caractérisée par le fait que le Parlement européen avait relativement peu de pouvoir et notamment qu'il n'avait aucun pouvoir en matière de désignation des grands dirigeants de l'Union. Or, les choses ont évolué. Aujourd'hui, le Parlement européen est doté de pouvoirs non négligeables, non négligeables en matière budgétaire, en matière législative. On le dit assez souvent, beaucoup des règles qui nous régissent aujourd'hui sont en fait plus ou moins originaires de Strasbourg et de Bruxelles. C'est très important. Et puis, la deuxième chose, et ça c'est vraiment la nouveauté de cette année, pour la première fois, le Parlement européen aura son mot à dire sur la désignation du président de la Commission européenne. Le président de la Commission européenne, c'est vraiment le patron, en quelque sorte, c'est actuellement M. Barroso. Et donc, selon la majorité qui se dégagera dans ce Parlement européen, cela ira plutôt dans le sens d'une ou d'une autre, de l'une ou l'autre des deux grandes candidatures qui se sont dégagées. Donc il y en a une qui vient de ce qu'on appelle le Parti populaire européen. En gros, c'est l'union des partis de droite, des partis conservateurs, dont l'UMP en France. Et puis, il y a un candidat de l'autre côté du PSE, du Parti socialiste européen, qui regroupe les socialistes et sociaux-démocrates européens, dont le PS français. Et donc, on a Juncker d'un côté, et on a... je ne sais plus son nom.
Schulz.
On a Juncker d'un côté et Schulz de l'autre. Et pour la première fois, donc, on va avoir une campagne qui va être un peu personnalisée et personnalisée au niveau européen. Il va y avoir à Lyon un meeting avec en vedette Martin Schulz, par exemple. Ça, c'est vraiment une nouveauté et ça peut amener à convaincre petit à petit les électeurs qu'il y a un vrai enjeu et que ça peut changer un certain nombre de choses.
C'est une élection où les gens votent, d'une manière générale. Est-ce que le taux de participation est élevé ?
Ben oui, c'est vrai que c'est le taux d'abstention qui est élevé traditionnellement et qui l'est de plus en plus. On dirait dans les autres scrutins aussi, il y a de plus en plus d'abstention. Donc l'élection européenne, c'est pareil. Ça, c'est dans les derniers scrutins, il y a eu un fort taux d'abstention. Et disons qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si un électeur sur deux se déplacera. C'est l'un des enjeux, bien sûr, de ce scrutin.
Comment vous voyez, vous, cette élection ? Comment elle s'est préparée, à votre avis ? Qu'est-ce qui peut se passer de spécifique sur cette élection en France, en tout cas ?
Ce qui est certain, c'est que c'est toujours difficile de faire une campagne européenne. C'est toujours difficile de mobiliser les électeurs pour les raisons que l'on disait tout à l'heure. Les partis vont essayer, justement, notamment les principaux, de mieux mobiliser que d'habitude du fait des évolutions, institutionnelles. Mais en France, c'est vrai qu'on sort des municipales qui ont beaucoup occupé, et donc ça va être très difficile de remobiliser les militants d'abord, et puis les électeurs ensuite. Mais oui, il est possible que le fait que le Parlement ait son mot à dire maintenant sur la désignation du président des commissions européennes, il est possible que si c'est suffisamment su, si les électeurs en prennent bien conscience, il est possible que ça aide à la mobilisation.
Et vous voyez des partis tirer leur épingle du jeu plus que d'autres
Alors pour la raison qu'on disait, à savoir le mode de scrutin, la proportionnelle, ça encourage la multiplication des listes. Donc c'est pas une bonne chose pour les principaux partis, pour les grands partis, bien sûr. Les voix se dispersent. Comme certains pensent qu'il n'y a pas de gros enjeux, ils ont plus tendance à voter pour un petit parti qui leur plaît bien sur le moment, plutôt que de voter d'une façon plus rationnelle, si l'on veut, pour un plus grand parti.
Il n'y a qu'un seul tour,
Il n'y a qu'un seul tour. Donc... Après, on s'attend, pas seulement en France, d'ailleurs de manière générale en Europe, à une certaine poussée des partis d'extrême droite, des partis que l'on dit populistes. C'est vrai que ce sont des partis qui, en fait, ne sont pas forcément tous assimilables les uns aux autres, mais ils ont en commun généralement d'être très critiques vis-à-vis de
l'Europe.
De l'Europe. non pas critiques au sens où peuvent l'être les socialistes et les sociaux-démocrates qui disent on est pour l'Europe, mais à l'intérieur de cette Europe, il faut faire une autre politique, plus favorable aux investissements, à la justice sociale, etc. etc. Eux, c'est plutôt, il faut arrêter avec l'Europe, arrêter avec l'euro, ou réduire l'Europe à quelque chose de beaucoup plus limité, et revenir à des règles nationales, aux frontières, etc. etc.
Et alors, dans les autres pays, justement, à part les partis populistes, quelle tendance se dessine un petit peu? Est-ce que c'est plutôt la gauche, d'une manière générale, qui est donnée gagnante? Est-ce que c'est la droite? Est-ce que c'est ça se vaut?
Alors, selon les pays, c'est très variable, parce que partout, c'est pareil. Partout, il y a une dimension nationale qui est très forte dans les motivations des électeurs. Donc, comme tous les pays ne sont pas toujours dans la même situation, ici, c'est la gauche, là, c'est la droite qui est au pouvoir. Dans un certain nombre d'endroits, d'ailleurs, c'est une partie de la gauche, une partie de la droite qui sont au pouvoir en même temps, comme en Allemagne avec ce qu'on appelle la grande coalition, hein, socialistes et conservateurs, quoi. Les chrétiens-démocrates sont au pouvoir ensemble. Donc on a là des logiques très très différentes. Mais d'après toutes les études, toutes les enquêtes les plus récentes, c'est forcément bien sûr les partis conservateurs d'un côté du PPE et de l'autre côté les partis socialistes et sociaux-démocrates qui vont faire les gros scores. Alors, lequel des deux camps sera devant l'autre d'après les enquêtes récentes, ce serait plutôt le Parti populaire, c'est-à-dire les conservateurs, la droite, hein, pour parler très vite. Mais il n'y a pas un gros écart, donc ça peut encore évoluer de ce point de vue-là. Et puis donc on s'attend à une poussée de l'extrême droite, des populistes, des eurosceptiques. Bon, ça reste à vérifier parce que ces électeurs d'extrême droite ne sont pas forcément, notamment en France, ceux qui vont le plus facilement voter. Ça renvoie à des catégories sociales qui souvent ont du mal à aller voter, s'abstiennent beaucoup. Donc attendons de voir comment ça se passera. Traditionnellement, depuis déjà un certain temps, les élections européennes sont relativement favorables aux écologistes. Il faut voir aussi si ça se vérifie cette fois-ci.
Et alors, juste une dernière question. Vous, en tant qu'observateur, est-ce que vous voyez une fracture entre les électeurs, justement, français et l'Europe?
C'est d'autant plus compréhensible que souvent, les politiciens eux-mêmes
ont tendance à taper sur l'Europe.
C'est assez pratique, finalement. C'est assez pratique de s'en prendre à l'Europe. Donc, tout concourt, effectivement, à ce qu'il y ait toutes sortes de griefs qui s'accumulent contre ce qu'on appelle l'Europe, ce qui ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs, parce que, précisément, selon la majorité au Parlement européen, l'Europe peut prendre un autre visage, éventuellement.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Nous avons rencontré des étudiants de l'Université Lyon 2 pour connaître leurs sentiments sur ces Européennes 2014.
Importante, oui. Enfin, celle-là qui arrive, oui, en particulier. Avec le score qui est annoncé pour le FN, enfin, c'est important d'aller voter, à mon avis. Donc oui, elles ont une importance. Et après, sur l'orientation qu'on vous a donnée pour l'Europe... Enfin oui, pour moi, elle a une importance. C'est vrai que je me sens plus concerné par une élection municipale ou présidentielle ou nationale. Peut-être parce qu'on a moins accès à ce que fait le Parlement européen, à ce qui sur la communication qui en est faite. En tout cas, il y a moins d'informations et c'est vrai qu'on se sent moins concerné par ce qui se passe à Bruxelles ou à Strasbourg. Il y a des élections européennes depuis je ne sais pas combien de temps en Europe et j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose qui a changé depuis.
Moi, je pense que c'est important vu le contexte et je pense qu'on devrait donner plus d'importance à ces élections en termes de visibilité. Enfin, je pense que normalement, ça devrait être plus important que l'impression qu'on en donne, en fait, dans les médias. Je pense que l'abstention, de toute façon, peut être un poids de devenir dans n'importe quelle élection, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, aller voter, c'est bateau, mais... Je pense que, faut se déplacer, faut y aller, et oui, d'autant plus vu le contexte, comme je l'ai dit, Je pense pas que l'Europe va changer du jour au lendemain, mais si on veut qu'elle change un jour, enfin, faut bien au bout d'un moment s'exprimer. Sinon, ça va pas devenir tout seul du Parlement. Enfin, voilà.
Non, pas vraiment. Et je m'y suis pas du tout intéressée pour l'instant. Je trouve que justement, vu que c'est au niveau européen, c'est assez éloigné de nous, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'y intéresse peu, parce qu'on se dit que notre opinion va pas forcément être écoutée ou va pas être rapportée justement jusqu'au niveau européen. Plutôt local, parce que c'est ce qui me touche de plus près.
J'ai pas vraiment prêté attention, mais je pense qu'après oui, c'est important. Non, à l'heure d'aujourd'hui, oui, c'est l'Europe, c'est quand même important. Parce que ça influe vraiment sur notre sur le système français.
Je dirais aussi importante que les législatives et peut-être un peu moins importante que les présidentielles. Mondiale comme toutes les autres, comme les précédentes et comme les suivantes, hein, il n'y a pas d'enjeu majeur particulièrement en ce moment. Il y a toujours un enjeu, mais voilà, pas spécialement.
Oui, c'est important puisque, enfin, je soutiens l'Europe, donc pour moi c'est important. Je veux pas que l'Europe soit supprimée, donc oui, pour moi c'est important de voter pour. Je pense que c'est important parce qu'en ce moment on est en train de mettre des politiques économiques, etc. Et après on a l'impression que ça ne nous touche pas indirectement, mais ça a quand même un impact au niveau mondial par exemple, puisqu'on est puissance, enfin c'est une puissance en tant que telle en fait.
Elle a pris une grande importance, mais j'ai l'impression qu'en France il y a de plus en plus de gens qui se posent la question de la place de l'Europe et qui commencent à douter de l'Europe. Alors pourtant on a bien vu que c'était primordial d'être rattaché à l'Europe. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, oui. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de doutes par rapport à nos places dans l'Europe.
Univox.
Nous avons également interviewé Michel Morin, qui est le vice-président de la Maison de l'Europe et des Européens.
Dans quelques jours, tiendront les élections européennes. Alors, c'est un événement important, mais qui, depuis quelques années, on peut le voir dans l'Europe, notamment en France, souffre un petit peu de critiques, d'un manque de visibilité. Qu'est-ce que c'est que les élections européennes ? À quoi ça sert ?
Alors, les élections européennes du Parlement européen sont devenues une élection au suffrage universel depuis 1979 seulement. Donc c'est une histoire relativement récente. L'Assemblée européenne a toujours existé, mais auparavant, elle était une assemblée au deuxième degré. Là maintenant, les citoyens sont appelés, depuis cette date-là, à élire directement les députés européens. Non pas sur la base de leur pays seulement, mais aussi sur la base de leur appartenance à des partis politiques. Si bien que dans le Parlement européen, il y a des groupes politiques composés de gens de différentes nationalités, et non pas le groupe des Français, le groupe des Allemands, le groupe des Anglais. Et ces partis politiques se regroupent en fonction de leur affinité commune.
Comme les Verts, par exemple, avec Die Grünen.
Voilà, Die Verts et Die Grünen, les socialistes et les sociodémocrates allemands, les libéraux et le Modem pour la France, etc., etc. Donc c'est une façon de fonctionner de démocratie parlementaire assez classique. Maintenant, la question, c'est quelle place a le Parlement ? Et là aussi, il y a eu des grandes transformations. Le Parlement n'était que consultatif pendant un certain temps, et maintenant, il est devenu de plus en plus un organe de décision. Les codécisions sont devenues les plus nombreuses dans l'Union européenne maintenant. Et de plus, la prochaine fois, cette fois-ci, en tout cas avec l'élection du Parlement, le résultat du vote des électeurs va jouer sur la désignation du futur président de la Commission. C'est-à-dire que M. Barroso, désigné par les chefs d'État dans leur cénacle, ne sera plus possible. Il faudra maintenant tenir compte du résultat des élections.
Alors, combien il y a de députés en tout dans ce Parlement européen ?
Alors, le Parlement européen a un chiffre variable. Il vient d'être réduit par l'application du traité de Lisbonne. Donc, il y aura 751 députés cette année.
Et combien de Français, du coup ?
Du coup, il y aura 74 Français cette fois-ci.
Alors, au niveau du vote en tant que tel, donc quand on va voter, alors que ça soit à Lyon, à Paris, dans un petit village de la Creuse, qu'est-ce qu'on choisit ? Comment ça se passe techniquement, vraiment, cette élection ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, finalement, sont pas vraiment au fait. C'est quand même une élection par rapport aux autres qui est pas beaucoup mise en avant, quand même.
Alors, elle paraît plus compliquée parce qu'elle est sur la base, elle n'est pas sur la base d'une circonscription nationale où il y aurait une liste nationale, parce que la France a été découpée en grandes circonscriptions. Et ces grandes circonscriptions regroupent plusieurs régions. Et pour la nôtre, pour parler de notre circonscription, qu'on appelle le Grand Sud-Est, cela comprend la région Rhône-Alpes, la région PACA et la Corse. Donc cela représente un ensemble assez varié, hétérogène, on peut dire même, et considérable.
On vote pour le même député, par exemple, si on a choisi un parti politique, que ça soit en Corse, à Marseille ou à Lyon, on va voter pour, c'est la même personne.
Voilà, exactement. Représente. Alors c'est la même personne, mais cette personne n'est pas toute seule. C'est pas comme dans les élections de députés nationaux. C'est une personne qui sera issue d'une liste, parce que c'est un scrutin de liste. Il est proportionnel et il est de liste. C'est les deux caractéristiques, chose qui n'existe que peu dans nos élections nationales, sauf pour les régionales ou en partie pour les municipales. Ça ressemble plutôt à cela, mais il n'y a qu'un tour. C'est la différence.
Alors, une structure comme la Maison de l'Europe, comment vous vous positionnez par rapport à cette élection? Est-ce que vous, vraiment, voilà, vous essayez de pousser les gens à voter? Est-ce que vous vous tenez quand même plutôt à l'écart et vous jouez sur d'autres leviers? Comment ça se passe un petit peu pour une structure comme la vôtre, ce genre d'élection?
Ben, comme nous sommes une structure qui est définie comme étant un mouvement d'éducation populaire ou un mouvement d'éducation permanente, c'est-à-dire un instrument d'éducation civique sur l'Europe, il est évident que notre rôle, comme toute institution d'ordre civique, c'est d'appeler les citoyens à jouer, à remplir leur rôle. Donc le rôle des citoyens, dans ce cas-là, c'est de voter. Donc nous avons un rôle actif, proactif, de façon à favoriser la participation à l'élection, aux élections en général, mais à cette élection en particulier. Voilà, donc ça c'est clair. Par contre, nous n'avons pas d'engagement partisan en direction de tel ou tel parti.
Et alors, vous pouvez nous faire un petit état des lieux des autres institutions, on va dire, de l'Europe? On a parlé du Parlement, mais il y en a d'autres qui sont importantes.
Bien sûr, parce que le Parlement lui-même est au sommet d'un triangle, puisque c'est les peuples européens qui choisissent leurs députés et qui participent à la décision, mais ils ne le font pas tout seuls. Ils le font, d'une part, en codécision avec les instances représentant les États, c'est-à-dire les 28 États actuellement, lesquels ont le Conseil des ministres, et donc les codécisions circulent entre les deux. Et un troisième point du triangle, c'est la Commission européenne, qui est chargée de veiller à l'application des traités et de faire des propositions. Et le Parlement, il est dans ce jeu-là, et quand il y a des désaccords trop profonds, ben, il y a des longues négociations entre eux, et puis ensuite, quand il y a encore des désaccords plus profonds, qui sont d'ordre juridique, il y a la Cour de justice qui va trancher ces différends.
Et alors, comment vous voyez l'évolution, justement, on va dire, depuis les années 70, même si c'est la construction européenne date bien sûr de plus loin que ça, mais fin des années 70, début 80, c'est vrai que l'Europe traverse quand même une crise. Comment vous voyez un petit peu l'évolution, alors que ça soit des élections européennes ou des institutions?
Ben alors, si on parle de crise, il faudrait peut-être comparer avec la biologie. Disons qu'à la limite, il y a une crise d'adolescence, sûrement, mais c'est une crise de croissance plutôt qu'autre chose. Dans la mesure où il y a deux phénomènes qui sont développés depuis les années 70, c'est d'une part la démocratisation. Auparavant, les décisions étaient prises de façon démocratique, mais au deuxième degré, que par les gouvernements et leurs représentants, ce qui était une forme de démocratie parlementaire classique. Mais là, maintenant, les peuples européens interviennent directement. Donc, il y a un progrès dans la démocratisation qui n'est pas encore terminé, mais avec le poids du Parlement européen dans la désignation du futur président de la Commission, il y a une avancée. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas la panacée, mais c'est une direction. Et la deuxième chose, la deuxième évolution, c'est le renforcement des domaines de compétences de l'Union dans les domaines les plus importants. Puisque dans le domaine monétaire, avec la création de l'Union bancaire, dans le domaine économique, il y a des prises de décision qui conditionnent la vie de tous les citoyens européens, et des Français en particulier, parce que les décisions prises ont des conséquences dans la vie quotidienne. On le sait, heureusement, ça a sauvé un certain nombre de situations économiques, malheureusement, parce qu'il y a eu des crises, et les Européens, les Grecs, ou les Portugais, ou les Espagnols, ont dû payer cher le fait que la crise économique existe, mais pas du fait de l'Europe. Du fait que leur pays, dans le cadre de l'Europe, a eu des politiques qui les ont menés dans des situations difficiles.
Et alors justement, une structure comme la vôtre, donc la Maison de l'Europe, d'ailleurs on peut rappeler, ça peut dire en quelques mots en fait, vraiment à quoi sert la Maison de l'Europe en fait, qu'est-ce qu'elle représente?
Bien, la Maison de l'Europe représente les citoyens, et c'est pour ça que depuis que nous avons refondé la Maison de l'Europe il y a 2 ans et demi, nous l'avons appelée la Maison de l'Europe et des Européens. Parce que l'idée, c'est que l'Europe, c'est une mécanique générale et politique et sociale intéressante qui existe, mais c'est aussi le fait qu'il y ait des Européens dedans. Donc du coup, la Maison de l'Europe s'intéresse à expliquer qu'est-ce que l'Europe est, mais aussi elle regroupe tous les Européens regroupés en associations, puisque la Maison de l'Europe comprend plus de 30 associations membres et des adhérents individuels qui s'occupent bénévolement de faire fonctionner des activités d'information, de communication, de création d'activités, de création d'événements, de création de débats, de production de documents. Et là, cela veut dire que c'est un moyen de faire avancer la connaissance d'abord démocratique de l'Europe, et ensuite l'engagement citoyen pour dire nous sommes des citoyens actifs, cette Europe nous en voulons un plus ou moins ou mieux, en tout cas c'est les Européens qui le disent sur l'Europe. d'où le rôle de la Maison de l'Europe et des Européens.
Et alors justement, en tant que structure, est-ce que des fois c'est pas difficile un petit peu sur certaines décisions? J'imagine qu'il y a des gens de la Maison d'Europe qui vont pas être peut-être forcément d'accord avec une grande décision européenne ou un remodelage des institutions ou une direction économique, etc. Comment vous faites pour à la fois voilà, sauver l'idée d'Europe et en même temps faire entendre votre voix aussi?
Alors là, la situation est effectivement la question est intéressante et la situation est nouvelle par rapport à ça, parce que d'un côté, quand il y a des choses qui se produisent au niveau des décisions, le rôle dans l'information civique, que ce soit sur n'importe quelle institution, dans une école en France, sur ce qui se passe en France ou ailleurs, c'est l'objectivité, c'est la neutralité, c'est expliquer d'abord. Donc nous continuons toujours à expliquer, voilà la décision, pourquoi elle a été prise, comment, voilà les points de vue pour et contre. Donc ça, c'est le rôle, on va dire, du débat civique. Et de l'information civique. Deuxième temps, il y a la difficulté de notre position, prise de position qui peut être individuelle. On peut ne pas être tous d'accord sur cette mesure. Et là, la solution est la suivante, c'est que chacun se retrouve soit dans des organisations différentes, donc des amis son manque de certains de partis différents est très 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 différent, et là ils ont des positions qui peuvent être critiques par rapport à la décision, des amis sont membres d'associations qui peuvent être très critiques aussi par rapport à la décision, ou au contraire qui vont soutenir fortement la décision. Mais donc en fait on distingue bien les deux choses, c'est-à-dire l'information civique et le débat démocratique de dire pour ou contre.
D'accord. Et alors sur cette élection, vous avez un petit peu des inquiétudes ou des espoirs, alors que ce soit au niveau de la manière dont les gens vont participer, ce que ça va amener aussi avec du coup un refondement du Parlement avec moins de députés comme on l'a dit aussi.
Alors l'inquiétude, il y en a une essentielle et une corollaire. L'inquiétude essentielle pour nous qui sommes chargés de faire de l'information civique, c'est qu'on perde la bataille du civisme. C'est-à-dire que si l'abstentionnisme gagne, on aura échoué. Donc là, ce sera c'est l'arithmétique. Plus d'abstention égale un échec de tout le travail qu'on a fait pendant 5 ans. Voilà, ça c'est clair et net. Moins d'abstention, c'est une progression, un regain d'intérêt pour l'Europe, ça serait une victoire. Voilà, ça c'est clair. Par contre, sur le corollaire, c'est le pourcentage que vont représenter parmi les votants les anti-européens. Mais anti-européens dans le sens viscéral du terme ou profond du terme, qui veulent revenir en arrière et détruire ce qui a été fait. Vouloir changer, c'est une chose. Vouloir détruire, c'en est une autre. Il y a effectivement dans beaucoup de pays la montée de ce qu'on appelle les nationalismes. Moi, j'appelle ça les nationalismes purs et simples. Certains disent des populismes, etc. Peu importe, mais l'idée, c'est un retour au nationalisme plus traditionnel. Et là, par contre, dans beaucoup de pays, on a constaté des montées très très fortes qui vont peser très lourd. Et en particulier, alors l'inquiétude, s'il y en a une, c'est que du fait de l'abstentionnisme des pro-européens et de la forte participation des anti-européens, que la représentation de ces anti-européens dans le Parlement soit très élevée. Auquel cas, ça ne sera plus une minorité enquiquinante dans le Parlement, mais ça pourrait être une minorité de dysfonctionnement, sinon de blocage dans les décisions. Ils pourraient arriver à bloquer les décisions du Parlement européen pendant des durées qui pourraient être dangereuses pour certaines évolutions de l'Union.
Après, on voit aussi quand même qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'Europe, qui s'intéressent à des unions entre les Européens, etc., mais qui, une fois de plus, ne se reconnaissent pas spécialement dans certaines institutions. Pas parce que des gens ne vont pas aller voter qu'ils ne sont pas intéressés par le sort de l'Europe et qu'ils n'offrent pas à leur niveau en fait, pour l'Europe ou pour les Européens. En fait.
Mais ça, moi, je peux les comprendre, et je crois que beaucoup de gens les comprennent parmi les Européens militants. C'est parce que le système est tellement illisible, est tellement complexe, est tellement brouillé, qu'il est difficile de se dire, en mettant un bulletin dans l'urne ou en participant activement à la vie politique européenne, je vais peser quelque chose, parce qu'on a l'impression que ça se noie dans un ensemble, dans un magma incompréhensible. De ce fait, ça veut dire que le vrai travail d'avenir politique pour permettre à chacun d'y retrouver son compte, c'est une clarification et la création d'institutions plus lisibles, plus simples. Et ça existe, hein. Il y a d'autres pays qui fonctionnent. La question, c'est comment organiser notre continent dans une entité politique visible. On a actuellement des États-continents en grande quantité, l'Inde, les États-Unis, la Russie, ce sont des continents qui ont un seul État. Nous, la question, c'est comment est-ce qu'on fait qu'avec un continent, avec plusieurs États, on le transforme. Et c'est une question d'organisation dans un système, là, ça c'est mon option personnelle, d'un système fédéral simple, clair et lisible. Et là, les électeurs sauront pourquoi ils votent, ils auront envie de voter parce qu'ils sauront à quoi ça sert et pour faire quelle politique.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Ça. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.